On a un panel avec quatre panélistes. Je vais les introduire après. Évidemment, on peut beaucoup critiquer dans l'euro, mais il y a quelques mois, il y avait une blague en Irlande où les gens se demandaient quelle est la différence entre l'Irlande et l'Islande. Et la réponse était une lettre et trois mois. Et évidemment, la bonne réponse aurait été la différence est l'euro. Parce que c'est à cause de l'euro que l'Irlande finalement se retrouvait pas dans la situation de l'Islande. Donc, dans la crise, l'euro a démontré quelques points forts, mais malheureusement aussi quelques faiblesses qui se démontraient déjà avant, avec les divergences au sein de la zone euro. Par exemple, il y avait des pays comme l'Espagne, comme l'Irlande notamment, qui se sont développés d'une manière très très différente du reste de la zone euro, notamment la France et l'Allemagne. Et il n'était pas clair comment avoir une politique monétaire qui était raisonnable pour les deux, pour les deux parties de la zone euro. Donc, il y avait beaucoup de problèmes et les problèmes aujourd'hui ne sont pas encore résolus. Donc, aujourd'hui, on va débattre quels sont les problèmes vraiment, les problèmes de fond et quelles sont les bonnes solutions. On va commencer avec une présentation d'Agnès Benassi-Curie, elle est directrice du CEPI. Et la présentation d'Agnès sera suivie d'une présentation de Henrik Enderlein, qui est prof au Hertie School of Governance à Berlin, suivie par une intervention de Jacques Desplat, qui vient de terminer, il me dit, un rapport pour la commission Juppé-Rocard sur le grand emprunt, et qui est en même temps membre du Conseil d'analyse économique. Et last but not least, Philippe Frémaux, qui est directeur du journal Alternative économique et qui vient de publier un petit livre que je me permets de montrer récemment, un petit dictionnaire des mots de la crise. Donc lui aussi est un grand expert de la crise. Et donc, merci beaucoup d'être venu et on commence avec Agnès.
Merci beaucoup. Donc, ma présentation s'appuie sur un livre à paraître, c'est une réédition de l'économie de l'euro, donc réalisée avec Benoît Curé et qui va apparaître très prochainement, je pense qu'on l'aura pour Noël. Alors, mon intervention sera en quatre points. La première porte sur les aspects plutôt microéconomiques de l'euro. Donc, je vais dire des choses un petit peu, des opinions, pour lancer le débat. Donc, la première chose, c'est que tout le bénéfice de l'euro, depuis sa création, n'a sans doute pas été tiré. Quand on regarde ces 10 années passées, on voit qu'il y a eu un impact significatif de l'introduction de l'euro sur le commerce au sein des pays de la zone euro. Donc un peu plus de commerce, même si ce n'est pas très spectaculaire, plus de variétés échangées, plus de diversité des produits échangés au sein de la zone euro, plus de concurrence, mais pour le consommateur final, l'impact n'est pas tellement notable. Donc, quelques chiffres là-dessus. Là, vous avez donc le résultat d'un travail d'Antoine Berthou et Lionel Fontanier, qui ont décomposé les exportations françaises vers des pays, zone euro, reste de l'Union européenne, reste de l'Europe, reste du monde. Donc on voit quand ça augmente, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il distingue entre l'augmentation de la valeur des flux, l'augmentation du nombre de marchés atteints par les exportateurs français, l'augmentation du nombre de produits vendus par chaque exportateur et enfin le nombre d'exportateurs. On voit que le nombre d'exportateurs français a diminué, mais tout le reste a augmenté. Et lorsqu'ils font une analyse économétrique, ils voient que l'euro a fait une différence essentiellement sur le nombre de produits, c'est-à-dire que l'euro a permis de vendre une plus grande variété de produits par un plus petit nombre d'exportateurs. Maintenant, si on regarde les prix des exportateurs, donc là, c'est un travail d'Isabelle Méjean et Julien Martin, toujours sur les mêmes données, qui montrent, alors vous avez l'écart de prix entre les exportations vers les pays de la zone euro par rapport à la moyenne de l'ensemble des pays. Et on voit, donc c'est les barres vers le bas, on voit que au cours de la période euro, les exportateurs français se sont mis à vendre moins cher lorsqu'ils vendaient vers des pays de la zone euro. Donc on a l'impression que ça, c'est plutôt un bénéfice pour, en tout cas pour les partenaires de la France. Et si c'est symétrique, eh bien, si les Allemands ont eu le même comportement, eh bien, c'est un bénéfice pour les Français. Des prix plus faibles, donc, vers la zone euro. On se rend compte, enfin, que cet effet de prix plus faible, il vient non pas que les exportateurs en place aient baissé leur prix, mais qu'ils ont été éliminés, en partie, par des nouveaux exportateurs qui sont arrivés avec des prix plus bas. Donc c'est un effet de concurrence, l'arrivée de nouveaux concurrents à prix plus bas. Alors, malheureusement, nous sommes tous des consommateurs et nous n'avons pas complètement perçu cette baisse de prix dans les magasins. Et lorsqu'on regarde les indicateurs Eurostat sur l'évolution des prix à la consommation, donc c'est la dispersion des prix à la consommation au sein de la zone euro, c'est la courbe en rouge en bas, donc la dispersion des prix au sein de la zone euro pour les prix à la consommation, c'est de l'ordre de 10%. C'est plus faible qu'au sein de l'Union à 27, hein, puisque évidemment les prix en Roumanie sont nettement plus bas qu'en Allemagne ou en France. Mais ce qu'on voit, c'est que cette dispersion n'évolue pas au cours du temps. En tout cas, l'introduction de l'euro ne semble pas avoir fait converger notablement les prix. Alors, une explication évidente à cela, ça pourrait être les différences de fiscalité, puisqu'on importe un produit, peut-être son prix baisse, mais après on va mettre une TVA, et cette TVA, elle est différente entre les pays européens, même s'il y a un minimum qui est 15% pour le taux standard. Alors, en fait, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les taux de TVA depuis la création de l'euro, ils ont eu plutôt tendance à converger donc, au sein de la zone euro. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une divergence de la fiscalité qui a empêché les prix de converger au sein de la zone euro. Plus probablement, il s'agit de problèmes structurels, notamment dans les réseaux de distribution. On a constaté, au cours de la période, un certain essoufflement des réformes des marchés de biens et services. On connaît le débat en France, il est plutôt long et douloureux. Ici, vous avez un indicateur de l'OCDE qui montre, dans plein de pays, les conditions réglementaires sur la distribution de détail et comment ça évolue au cours du temps. Donc, à droite, on a les pays les plus libéraux en termes de distribution, installation des supermarchés, politique de prix, etc. Et puis, à gauche, on a les pays les plus restrictifs. Et on voit que les pays de la zone euro sont plutôt du côté gauche, du côté plus restrictif, et que la situation n'a pas beaucoup évolué entre 2003 et 2008. Et il y a peut-être là une clé qui nous dit que l'euro, c'est très bien, mais si l'euro tout seul ne peut pas grand-chose, en termes de gains pour le consommateur, il faut qu'il soit relayé par des réformes structurelles. Alors maintenant, si on passe au volet macroéconomique, s'il y avait une chose qu'on savait quand on a créé l'euro, on savait qu'avec un taux d'intérêt nominal identique à court terme pour tous les pays de la zone euro et des taux d'inflation différents dans les pays de la zone euro, forcément, les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire l'écart entre le taux d'intérêt nominal et taux d'inflation, allait être différent entre les pays de la zone euro. Et on savait notamment que si les taux d'intérêt nominal étaient faibles et que certains pays avaient une forte inflation, ils auraient un taux d'intérêt réel négatif. Et bien donc, c'est exactement ce qui s'est produit. Vous avez à gauche l'évolution des taux d'intérêt réels à court terme pour les pays de la zone euro au cours du temps, donc depuis 1996, et à droite, ceux des pays européens qui ne sont pas dans la zone euro. Et on voit que beaucoup de pays dans la zone euro ont eu des taux d'intérêt réels négatifs, et alors que dans les pays hors de la zone euro, ça n'a pas été le cas, sauf pour la Slovaquie. Donc, quelles sont les conséquences de ça, taux d'intérêt réel négatif, hein, ça veut dire que c'est très intéressant de s'endetter, puisque le remboursement coûte moins cher que l'endettement. Donc, les conséquences de ça, ça a naturellement une incitation à s'endetter. Là, vous avez l'évolution, le taux de croissance des prêts aux ménages en zone euro, c'est la courbe bleue, et puis en Espagne, c'est la courbe rouge. Donc en Espagne, on a eu un pic au-dessus de 20% d'augmentation chaque année des prêts aux ménages pour donc des taux de croissance qui étaient nettement plus bas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une évolution des taux de change réels internes à la zone euro. C'est pas parce qu'on fixe le taux de change nominal que les prêts relatifs entre les pays de la zone euro vont rester constants. Et là, donc c'est une comparaison entre Espagne et Allemagne. Et on voit donc, c'est la courbe bleue, que entre 1999 et 2006, les prix à la consommation en Espagne ont augmenté de 12% de plus qu'en Allemagne. Mais quand on regarde les coûts du travail, la différence est de 25%. Sur seulement 7 ans, ça fait beaucoup. Même s'il y a un rattrapage espagnol qui explique en partie ce décalage, ça paraît quand même beaucoup. Et en tout cas, pour l'Irlande, il y a le même genre de graphique. Et là, ça ne s'explique pas du tout par le rattrapage, puisque l'Irlande, très vite, après son entrée dans l'euro, a été dans les premiers pays en termes de PIB par habitant. Et donc, on ne peut pas expliquer l'inflation irlandaise par le rattrapage économique. Alors, troisième point. On s'est rendu compte, mais un peu tard, que la surveillance s'était avérée inadéquate en zone euro. Vous connaissez le pacte de stabilité et de croissance. Ça a été l'instrument essentiel de surveillance des politiques économiques au sein de la zone euro. Ce pacte de stabilité se concentre sur l'épargne publique, sans regarder l'épargne privée. Or, si on regarde, ici vous avez un graphique qui vous montre en pointillé l'évolution des soldes budgétaires donc en Allemagne et en Espagne, donc en rouge pour l'Espagne, en vert pour l'Allemagne. Donc on voit que l'Allemagne était en difficulté avec le pacte de stabilité dans les années début des années 2000. Ça n'a pas été le cas de l'Espagne, qui était un bon élève. Mais lorsqu'on ajoute l'épargne privée, et comme vous savez, le solde extérieur, c'est la somme de l'épargne nette publique et de l'épargne nette privée, et donc la somme donc on a en très plein l'épargne nationale nette, en vert c'est l'Allemagne et en rouge c'est l'Espagne, on voit tout de suite que l'épargne privée a surcompensé des épargnes publiques en Allemagne, de sorte que le solde extérieur était de plus en plus positif, de plus en plus grand, et en Espagne c'était l'inverse. Donc on peut se poser la question, qui était le mauvais élève? Alors, d'autre part, même si on regarde les comptes publics, on se rend compte que la vertu d'un certain nombre de pays était un peu en trompe-l'œil. Vous avez un graphique qui vous montre le solde budgétaire juste avant et juste après la crise dans un certain nombre de pays. Et on voit qu'on a des cartes qui sont bien rebattues avec des pays qui passent brutalement du premier de la classe au dernier de la classe. Et donc on découvre une certaine substituabilité entre les soldes privés, et donc l'épargne privée et l'épargne publique. Enfin, on a un petit peu oublié qu'une partie des recettes budgétaires pouvait provenir éventuellement de recettes financières. Ici, vous avez l'évolution des taxes sur la propriété dans un certain nombre de pays entre 1999 et 2007. Et on voit que, par exemple, l'Irlande a gagné plus d'un point de PIB de recettes fiscales au titre seul des taxes sur la propriété. On sait qu'il y a eu une bulle immobilière en Irlande. Donc la santé budgétaire irlandaise avait un petit côté en trompe-l'œil lié à la bulle immobilière. Alors que faire maintenant? Donc, comme vous le savez, le pacte de stabilité a été déjà révisé une fois, en 2005, où on a mis l'accent plus sur le solde structurel, c'est-à-dire le solde corrigé du cycle. Quel serait le solde budgétaire si la production était à son niveau potentiel? Avec l'idée que les pays qui sont en difficulté avec le pacte doivent redresser leur solde budgétaire d'un demi-point de PIB par an, et puis en mettant un petit peu de flexibilité sur ces fameuses circonstances exceptionnelles qui étaient tellement exceptionnelles avant 2005 qu'elles ne pouvaient jamais s'appliquer. Aujourd'hui, les circonstances exceptionnelles peuvent s'appliquer, même si dans le cas de la France, la Commission a dit qu'elles ne pouvaient pas s'appliquer parce que le déficit n'était pas temporaire. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'on peut penser maintenant? Non pas à changer le pacte, parce que là, ça devient un petit peu l'arlésienne, mais peut-être à le compléter. On voit que le pacte de stabilité sera insuffisant pour redresser la situation budgétaire après la crise, parce que les ajustements ne sont pas assez vigoureux. Et on sait aussi qu'il y a des débats infinis sur le timing du redressement budgétaire. Il peut varier d'un pays à l'autre. Et donc, la Commission européenne commence à se diriger sur l'idée d'avoir des programmes un peu contingents. Contingents à quoi? Contingents au redressement économique. Deuxièmement, tenir compte des prix d'actifs, peut-être quand on corrige les soldes budgétaires. Pas seulement les corriger du cycle d'activité, mais peut-être aussi du cycle des prix d'actifs. Ensuite, on s'est beaucoup focalisé dans le passé sur les engagements hors bilan des États, en particulier face au problème des retraites. C'était très bien, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des engagements hors bilan vis-à-vis des banques. Et il faut prendre en compte, évidemment, quand on regarde la situation budgétaire d'un pays. Enfin, la question de l'épargne privée, qu'il faut prendre également en compte, comme on l'a vu. Et le volet coordination, qui pour l'instant a été quand même le grand absent des dispositifs européens. Et là, un petit graphique où donc vous avez en abscisse le solde budgétaire public, donc recettes moins dépenses, et en ordonnée, le solde extérieur, donc c'est l'épargne nationale nette de la nation. Et en fait, l'idée du pacte de stabilité, c'est faire bouger les pays de la gauche vers la droite, les ramener vers l'excédent budgétaire, ou en tout cas l'équilibre. Mais la coordination des politiques économiques par rapport au cycle d'activité imposerait de regarder aussi l'axe vertical, c'est-à-dire de faire en sorte que des pays qui soutiennent l'activité en période de basse, de vache maigre, ne soient pas pénalisés et qu'au contraire, on demande peut-être plus à ceux qui sont en haut, c'est-à-dire qui épargnent beaucoup, alors que l'économie européenne a besoin de demande. Deuxième chose, diversifier peut-être un peu les instruments de politique économique et de coordination de politique économique. Donc on l'a dit tout à l'heure, forte inflation dans certains pays entraîne des taux d'intérêt réels négatifs, donc de l'endettement, des bulles. Le pacte de stabilité se focalise sur la politique budgétaire, mais on peut aussi parler des réformes structurelles, de la régulation financière et de la fiscalité qui diffèrent et qui sont appelées à différer selon les pays et donc permettent aussi de gérer les déséquilibres internes à la zone euro. Et enfin, coordonner les stratégies. Je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Donc, on a eu une très, très bonne idée des challenges internes au sein de la zone euro. Évidemment, il y a aussi un challenge régional, la question de l'élargissement de l'euro, et la question globale. Comment va jouer la relation entre l'euro, le dollar, peut-être le renminbi? Je pense... Henrik va nous donner deux choses. Il va nous donner une perspective d'Outre-Rhin, mais une perspective, je crois, francophile, mais néanmoins d'Outre-Rhin, et sur les challenges internes, et à la fois quelques notions, quelques suggestions sur le challenge global.
Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. On a un joli panel franco-allemand. En fait, Agnès et moi, je crois qu'on est d'accord sur beaucoup de points. Ce que je voudrais faire, c'est regarder un peu l'euro face à cette tempête économique qu'on est en train de vivre. Et je crois qu'il faut commencer par cette image qui est très connue, qui est une image de l'Europe au moment du Marshall Plan dans les années 50. Et ce que je trouve intéressant sur cette image, c'est que ce n'est pas les pays de l'Union européenne actuelle qui sont là. Il y en a aussi d'autres, notamment l'Islande et la Turquie. Mais ce que je voudrais vous présenter, c'est... en trois points, les défis d'aujourd'hui. Tout d'abord, la tempête. Quelle est la tempête? Deuxièmement, il y a un risque d'émeute à bord du bateau. Et troisièmement, quels sont les choix des capitaines face à cette crise? On va commencer par cette tempête qui, en ce moment, comme vous le voyez tous, touche beaucoup l'euro. Mais je ne voudrais pas commencer par les défis au sein de la zone euro, mais plutôt, comme ça a été dit, avec les défis extérieurs. On voit aujourd'hui qu'il y a des déséquilibres financiers mondiaux qui touchent beaucoup la zone euro indirectement. Quels sont ces déséquilibres? On a, dans un premier temps, un déséquilibre entre les États-Unis et l'Asie, la Chine, avec des réserves qui ont été constituées par la Chine à un niveau assez impressionnant. La Chine, aujourd'hui, possède des devises, des dollars, à un niveau de 2 billions d'euros, ce qui était à peu près le PIB allemand d'un an. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils sous-évaluent leur propre monnaie pour pouvoir exporter vers les États-Unis. Et pour moi, cet déséquilibre international mondial est à l'origine de la crise actuelle que nous vivons. C'est 2 millions, ou 2 000 milliards. Vous avez une difficulté, peut-être tous, on a tous, de voir ce chiffre. Mais quand vous voyez la courbe de la politique chinoise au cours des 10 dernières années, vous voyez, sans être un mathématicien avec habilitation, que c'est une courbe exponentielle. Elle ne pouvait pas continuer de cette manière-là. Les devises chinoises doublaient tous les 2 ans. Donc en 2008, on était à 2 billions. En 2010, on aurait été à 4, puis à 8, puis à 16, puis à 32. Le PIB mondial est à 53 billions d'euros par an. Donc c'est tout simplement insoutenable. Quelle est l'implication qui en découle? C'est notamment une implication pour les États-Unis. Et je viens après à l'euro et je vais vous dire pourquoi c'est si important pour la zone euro. Si on voit aujourd'hui, ou on fait un aperçu rapide de l'économie américaine, vous voyez que l'endettement des foyers américains est extrêmement élevé. Cela s'explique par la monnaie facile qui a été contribuée par la Chine aux États-Unis. L'endettement est aujourd'hui par foyer en moyenne de 150 000 dollars, avec un revenu moyen annuel de 60 000 dollars. Le taux d'épargne n'existe pas aux États-Unis ou n'existait pas juste avant la crise. Avec le début de la crise, il est allé de moins 5 à 7 %. Actuellement, il est à 3 %. Donc les Américains commencent un tout petit peu à épargner, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il y a toujours ce déséquilibre mondial entre les deux zones. Ce qu'on va voir, c'est une baisse dramatique de la consommation qui est très élevée aux États-Unis. En pourcentage du PIB, on parle de 70 %. Et le déficit budgétaire des États-Unis explose. Au cours de l'année 2008-2009, on a vu un déficit de 12,4% du PIB. Nous, on raisonne en termes de Maastricht, donc ça fait 4 fois Maastricht, ce qui est quand même assez impressionnant. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça quand on parle de l'euro? Parce qu'il y a une tentation inflationniste aux États-Unis. Le problème de la dette se résout le plus facilement si on fait augmenter l'inflation, la dette disparaît. Quelle est la conséquence sur la monnaie extérieure? Le dollar risque de s'effondrer. Et cela pose un problème considérable ou peut poser un problème considérable à l'euro. Aujourd'hui, on a vu que pendant la crise, le rôle international de l'euro n'a pas vraiment changé en profondeur. Environ un tiers des réserves des grandes banques centrales dans le monde est placé en euros et les deux tiers en dollars. Mais on peut anticiper que ce mélange-là, ce ratio-là, risque de changer, ce qui peut avoir ce qui peut exercer une pression vers le haut sur l'euro, qui heurtera après les exportations de la zone et qui pourrait profondément changer la manière dont on devrait raisonner dans la zone euro. Ce qui m'amène à mon deuxième point, qui rejoint beaucoup de points de ce que Agnès a dit, les risques d'émeutes à bord. De quoi est-ce que je parle? Il y a des déséquilibres internes considérables dans la zone euro. On le voit avec la France et l'Allemagne, avec la France qui a, pendant la crise financière, très tôt lancé un plan de relance fiscale assez important. L'Allemagne était plus hésitante. Aujourd'hui, on voit que le déficit français va aller vers les 8-9% l'année prochaine. L'Allemagne a ancré dans la Constitution une règle qui arrête ou qui devrait arrêter au plus tard en 2016 le déficit annuel des comptes publics. Donc on a deux pays, les deux gros pays qui vont vraiment dans deux sens très différents dans la zone euro. Et ces déséquilibres internes sont soutenus, comme ça a été souligné dans la présentation avant, par une politique monétaire qui n'est pas appropriée ou qui est inappropriée pour les deux pays. Moi, je dis toujours que la BCE fait la bonne politique pour un pays qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle cible le milieu de la zone euro, mais il y a un grand bloc d'un côté et un grand bloc de l'autre côté. Et si vous voulez voir un peu à quoi ça aboutit, j'ai fait des analyses avec des règles Taylor, que vous connaissez peut-être, qui sont des règles sur la politique monétaire. Et si vous calculez un taux pour tous les pays qui seraient appropriés à leur propre économie interne, et vous voyez sur l'axe vertical la déviation de ce taux-là. Vous voyez sur l'axe horizontal la déviation de la croissance de la zone euro. Et quand vous regardez un pays comme l'Allemagne, vous voyez très bien qu'il a été pénalisé par sa présence dans la zone euro. Les taux d'intérêt ont été trop élevés. C'est la période 99-2005. Les taux d'intérêt ont été trop élevés pour l'Allemagne. Et du coup, la croissance était trop basse. Quand vous regardez l'Irlande ou l'Espagne, la politique de la BCE est trop laxiste, les taux deviennent négatifs et la croissance est nettement plus élevée que dans le reste de la zone euro. Ce qui est quand même assez troublant, parce que dans une zone économique et monétaire, ce genre de divergence ne devrait pas exister. On les a aux États-Unis, mais il y a aux États-Unis beaucoup plus de facteurs qui rééquilibrent ces déséquilibres. Il y a notamment la distribution fiscale, par un budget fédéral assez significatif de 30% du PIB. Le budget européen, si vous le connaissez, il fait 1% du PIB, donc il est presque inexistant. Il y a aussi la mobilité des travailleurs au sein des États-Unis qui n'existe pas dans la zone euro, qui est relativement peu présente. Et finalement, l'ajustement par les prix, et c'est un point que tu as très bien démontré, l'ajustement des prix ne se fait pas avec la rapidité qu'on souhaiterait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'égalisation de tous les prix, même s'il y a un effet qu'on peut très bien observer. Cela ne tient pas uniquement pour les pays individuels. Si vous regardez les points par trimestre et par pays, parce qu'il y a des fluctuations, la Hollande va d'un côté vers l'autre, vous trouvez quand même une tendance très, 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 très claire. Cela amène, à mon avis, à des discussions de redistribution au sein de la zone euro, ce qui se fait par la désinflation compétitive. Et l'exemple ou les chiffres qu'on a vus sur l'Espagne et l'Allemagne prouvent exactement ce point-là. Un pays comme l'Allemagne, qui a été pénalisé par cette politique commune, politique monétaire commune, a tout simplement joué par les salaires, a essayé de baisser les salaires et de utiliser cette désinflation compétitive pour pouvoir exporter au sein de la zone euro. Si tous les pays font ça pendant cette crise, on va droit dans le mur, et c'est quelque chose qu'il faudrait, à mon avis, à tout prix éviter. Quels sont les choix des capitaines ? Et je voudrais conclure sur ce point-là. Déjà, il y a un pluriel, il y a les capitaines. Il n'y a pas qu'un seul capitaine au sein de la zone euro. Il y a la BCE, il y a la Commission, il y a les États membres. La BCE, aujourd'hui, a trois options. La première, sur le taux de change, c'est d'accepter un euro fort. Je crois que c'est la solution la plus probable, puisque en moyenne, les pays membres vont consolider leur politique fiscale, et avec l'effondrement du dollar, il y a un risque très fort que l'euro s'envole vers le haut. Et la politique monétaire de la Banque centrale est obligée de garantir la stabilité des prix. Il y aurait une deuxième option, qui serait un euro faible, qui serait presque une politique chinoise ou, si je puis me permettre, une politique allemande des années 70, à savoir d'intervenir dans les marchés de change pour avoir une monnaie sous-évaluée tout en maintenant la stabilité des prix. Je suis très sceptique que la Banque centrale accepterait cette solution. Troisième option, la tentation inflationniste en Europe. Là, je dis tout de suite non, je ne pense pas que ça se fasse. L'autre jour, quelqu'un à Bercy m'a dit qu'il faudrait tous les fusiller à Francfort. J'ai trouvé ça une phrase très, très directe, mais je pense que même cette mesure extrême n'aboutirait pas à son but. La Commission, je pense qu'il faut une approche beaucoup plus holistique de l'économie européenne, et je rejoins parfaitement ce que tu as dit sur le pacte de stabilité, on pourrait dire 2.0 ou plus, comme tu as dit, c'est-à-dire une vision beaucoup plus globale qui tient en compte des flux monétaires, de l'épargne, aussi du niveau des impôts. On voit un pays comme l'Irlande qui a un niveau d'imposition assez faible, notamment sur les entreprises, et qui en même temps profite donc d'un avantage compétitif par rapport aux autres pays de la zone euro. Cette réforme, peut-être on pourra en débattre après, devra se faire très, très 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 bientôt. Mais je pense que la Commission ne sera pas suffisante. Il faut aussi plus de coopération directe entre les pays membres de la zone euro, une coopération en cercle concentrique, à commencer par la France et l'Allemagne. Ce qu'on a vu au cours de l'année dernière m'a vraiment perturbé ou presque choqué de voir que les deux pays qui partagent une même monnaie ne sont pas capables de se mettre d'accord sur une stratégie pour sortir de cette crise et pour voir un peu à long terme ce qui se passe. Aujourd'hui, la France a adopté une stratégie très claire qui est une stratégie de deficit spending, comme on dit en anglais, donc une tentation inflationniste, alors que l'Allemagne, c'est comme Ulysse attaché au mât et dit on ne peut plus rien faire parce qu'on a ancré l'obligation de se désendetter dans notre constitution. Il faudrait vraiment constituer un groupe de travail qui amène les deux pays à réfléchir ensemble et à voir comment cette destinée commune peut continuer, et pour faire en sorte que le bateau ne coule pas. Merci.
Henrik, merci beaucoup pour ce tour de force. Et en fait, ta partie finale du discours est une très bonne introduction à la présentation de Jacques Desplats. Évidemment, on a déjà entendu, il y a le pacte de stabilité, il ne faut pas regarder que la dette, mais la dette et les déficits sont importants. L'exemple extrême étant la Grèce. Et la Grèce avait signalé au début de l'année un déficit de 3,7%. Maintenant, ils sont à 12%. Donc, c'est beaucoup plus qu'ils l'ont signalé après la crise. Donc, c'est un problème grave. L'Allemagne avait fait une combinaison entre un programme de relance, en fait, d'une certaine manière, le plus grand en proportion du PIB en Europe, et la freine de la dette. Et il y a peut-être un problème de divergence entre les déficits et les dettes que Henrik vient d'évoquer, mais aussi il y a franchement un problème très classique au sein de la zone euro après la crise, c'est le problème de soutenabilité de la dette. Comment est-ce qu'on va gérer les dettes?